VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour Science et Santé, présenté cette semaine par Bagassi Koua. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Le gouvernement burundais a appelé ses concitoyens à la solidarité nationale et a ouvert une souscription publique pour financer les élections législatives et présidentielles des 5 et 26 juin. C'est ce que rapporte l'AFP, les précisions de Jacques Aristide.
Dans un communiqué, la présidence burundaise précise qu'un compte dédié a été ouvert auprès de la Banque du Burundi. Elle invite à ce qu'elle appelle les citoyens patriotes à une contribution volontaire pour financer les élections et d'indiquer que le gouvernement a déjà rassemblé une bonne partie des moyens nécessaires pour la tenue de ces scrutins. Auparavant, le gouvernement avait déjà annoncé l'ouverture d'une ligne budgétaire de 44 milliards de francs burundais, environ 27 millions de dollars, pour financer le processus électoral. Une décision qui intervient après le gel de l'aide financière à hauteur de 80% par la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, pays qui réclament le report des élections en raison des manifestations quasi quotidiennes contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Mais les autorités ont rejeté tout renvoi de ces scrutins.
Au Mali, un casque bleu bangladais a été tué et un autre grièvement blessé. C'était hier soir à Bamako, nous dit Idriss Fall.
La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a fait état d'un incident dans les environs de l'aéroport de Bamako. Le communiqué précise qu'un casque bleu a été blessé et un autre a succombé suite à ses blessures. Ils auraient subi des tirs d'assaillants inconnus, mais aucun impact de balle n'a été relevé sur leur véhicule. Une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est passé. La semaine dernière, un homme armé avait tenté d'attaquer une résidence du personnel onusien à Bamako, blessant un gardien. Depuis le déploiement de la MINUSMA en juillet 2013, plus de 30 casques bleus ont été tués au Mali. Ce mardi matin, des milliers de Maliens ont manifesté à Bamako pour soutenir l'accord de paix signé par le gouvernement. Les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad n'ont toujours pas signé le texte et exigent le retrait des milices pro-gouvernementales de la ville de Menaka, près de la frontière avec le Niger.
Exhumation de Thomas Sankara au Burkina Faso. Des ossements ont été retrouvés aujourd'hui dans la tombe présumée de l'ex-président burkinabé, assassiné en 1987 lors du coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. C'est ce qu'indique l'avocat de sa famille. L'exhumation, qui concerne également 12 compagnons de Thomas Sankara, a débuté hier. Thomas Sankara avait été enterré à La Sauvette le soir du 15 octobre 1987. Il aurait été inhumé au cimetière de Dagnoin, mais sa famille doute que son corps s'y trouve réellement. Au moins 23 personnes ont été tuées samedi dans le centre du Nigeria. D'après la police citée par l'AFP, l'attaque a été menée par des hommes armés inconnus contre 3 villages dans le district de Logo, dans l'état de Benoué. Des nomades peuls musulmans en conflit de longue date avec des communautés d'agriculteurs chrétiens sont suspectés. Et conférence sur l'aide pour la Centrafrique à Bruxelles. La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, exhorte la communauté internationale à verser l'aide promise au pays, notamment pour financer des élections d'ici la fin de l'année. Nouvelle attaque meurtrière près de Garissa au Kenya. Et cette fois-ci, ce sont les policiers kenyans qui sont les victimes d'Al-Shabaab. Les islamistes affirment ainsi avoir tué plus de 20 personnes, nous dit Nicolas Pinot.
Ce qui est sûr, c'est que des policiers kenyans ont été attaqués dans la région de Garissa, plus précisément entre Fafi et Yumbis. Un véhicule a d'abord été touché par un engin explosif. Lorsque des renforts sont venus les secourir, les djihadistes d'Al-Shabaab leur ont tendu une embuscade meurtrière, selon Mwenda Joka, porte-parole du ministère kenyan de l'Intérieur. Selon un bilan provisoire confirmé par Nairobi, un policier est mort, 4 autres blessés. Mais 13 autres policiers seraient portés disparus, selon l'AFP, qui cite le porte-parole de la police, George Kinoti, mais aucune confirmation officielle depuis. Une vaste opération de sauvetage est en cours pour essayer de retrouver les policiers disparus. Début avril, un commando Shabab avait attaqué l'université de la ville de Garissa et massacré 148 personnes, dont 142 étudiants.
Retour sur les élections législatives et régionales qui se sont tenues dimanche en Éthiopie. La mission d'observation électorale de l'Union africaine estime que les scrutins ont été calmes, pacifiques et crédibles. L'Union note toutefois quelques irrégularités constatées le jour du vote. Ainsi, dans 21% des cas, les présidents de bureau n'ont pas ouvert l'urne pour montrer qu'elle était vide avant de commencer le vote. Et puis cette nouvelle insolite, un avocat kényan propose 50 vaches, 70 moutons et 30 chèvres au président américain Barack Obama en échange de la main de sa fille Malia, âgée de 16 ans. Et c'est ce qu'indique le journal kényan de Nairobi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, vaste opération militaire en Irak pour reprendre Al-Anbar au groupe État islamique. Les forces irakiennes, aidées des milices chiites, ont lancé ce mardi une offensive destinée à isoler les djihadistes dans cette province stratégique avant de tenter de récupérer sa capitale, Ramadi. Le point avec Félix Yepassi-Zembrou.
Baptisée à tes ordres Hussein, l'opération vise à libérer les régions entre les provinces de Salahedin et d'Al-Anbar. C'est ce qu'a affirmé à l'agence France-Presse Hamed Al-Assadi, un porte-parole des unités de mobilisation populaire. L'annonce survient au lendemain des déclarations de la Maison-Blanche qui a tenté d'apaiser les tensions avec Bagdad, dont l'armée a été accusée d'un manque de volonté face à l'organisation État islamique par le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. Capitale de la province d'Al-Anbar, la plus grande d'Irak, Ramadi avait résisté pendant des mois aux assauts des djihadistes qui l'ont finalement conquise le 17 mai après un assaut de grande envergure et une retraite chaotique des forces irakiennes. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a promis de reprendre cette région s'étendant des limites de Bagdad aux frontières syriennes, saoudiennes et jordaniennes.
La Russie a commencé un nouveau cycle d'exercices de l'armée de l'air ce mardi, coïncidant avec les manœuvres militaires de l'OTAN dans l'Arctique, alors que les tensions montent dans la région. 12 000 soldats russes et jusqu'à 250 avions de chasse ont commencé lundi. Le même jour, 100 avions de combat des États-Unis et 8 pays européens se sont joints à l'exercice Arctic Challenge 2015, constitué de 4 000 militaires. Les exercices nordiques vont continuer jusqu'au 4 juin et seront suivis le 5 juin par les opérations annuelles Baltops de l'OTAN en mer Baltique, comprenant 4 500 soldats en provenance de 17 pays. Les États-Unis mènent des vols de surveillance pour aider à localiser les migrants qui ont été abandonnés par des passeurs en Asie du Sud-Est. L'ambassade américaine à Bangkok a dit au correspondant de la VOA en Asie, Steve Herman, que les vols de surveillance maritime ont commencé dimanche au large de la côte ouest de la Malaisie. L'ambassade n'a pas fourni plus de détails sur ces vols, si ce n'est qu'ils ont commencé après consultation avec les gouvernements de la région. Et le procès pour espionnage et propagande du journaliste du Washington Post, Jason Rezaian, a commencé ce mardi en Iran, à huis clos. L'agence de presse d'État iranienne IRNA rapporte que le procès a eu lieu dans un tribunal révolutionnaire qui traite généralement les cas impliquant la sécurité nationale. Rezaian a été arrêté en juillet dernier et détenu pendant des mois dans la tristement célèbre prison d'Evin en Iran, sans inculpation et sans autorisation de visite par un avocat. Il a depuis été autorisé à avoir une brève rencontre avec son avocat. Une vague de chaleur en Inde a fait plus de 500 morts. Et selon les prévisions météo, les hautes températures vont persister dans les prochains jours. La plupart des décès surviennent dans les états méridionaux de l'Andhra Pradesh et du Telangana, où le service météorologique indien prévoit des températures qui vont dépasser 40 degrés Celsius jusqu'à la fin du mois. La vague de chaleur a produit des températures quotidiennes aussi élevées que 48 degrés Celsius la semaine dernière, ce qui a provoqué de nombreux décès. Voilà pour ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Au micro, c'était Morgane Guiriec. Et je cède tout de suite la place à Bagassi Koura qui vous propose cette semaine Carrefour Science et Santé.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.